la chronique beaujolaise de l'Académie. Une émission proposée par les académiciens Pierre Prunet et Jean-Pierre Chantin. Sur Calade, le 100.9 et www.radio-calade.fr. La chronique beaujolaise de l'Académie, c'est parti.
Bonjour. Cette émission se déroule dans le cadre des chemins de traverse, les premiers mardis de chaque mois, à 18h30. Elle est rediffusée le dimanche suivant. Et elle précède une conférence de l'Académie de Villefranche et du Beaujolais, qui a lieu le deuxième samedi de chaque mois, à 16h, à l'auditorium de Villefranche. Et elle traite du sujet en l'élargissant. Ce mois-ci, la conférence du 10 septembre s'intitule « De quoi les abstentionnistes s'abstiennent-ils ?» Elle sera faite par Paul Bacot, politologue et professeur émérite de Sciences Po à Lyon. Mais aujourd'hui, nous en profiterons pour évoquer plus précisément avec Christophe Caumont, professeur d'histoire-géographie, mais aussi de géopolitique et de sciences politiques au lycée Aigrande à Belleville, ce qu'est la démocratie. Bonjour Christophe Caumont.
Bonjour Jean-Pierre Chantin.
Bonjour.
On dit souvent qu'Athènes est le berceau de la démocratie, c'est quelque chose qu'on voit un peu de partout. Et en fait, qu'en est-il ?
Alors qu'en est-il ? Donc c'est vrai que la première démocratie, forme de démocratie est née à Athènes. C'était à partir de 508 avant Jésus-Christ avec les réformes de Clisthène. Et elle va durer donc jusqu'en 322, au déclin de la Grèce. Athènes comptait à cette époque une population comprise entre 300 et 400 000 habitants. Et il y avait donc des non-libres et des libres. Dans les non-libres, donc, il y avait 110 000 à 150 000 esclaves, qui étaient souvent des prisonniers des batailles. Et puis beaucoup, d'ailleurs, étaient de citoyenneté grecque.
Et eux n'avaient pas de droit de vote.
N'avaient pas de droit de vote et n'avaient pas de droit du tout, pratiquement. Oui. Hein. Voilà. Il y avait également une catégorie à part, ce sont les métèques, qui étaient libres. Ils étaient 40 000. Ce sont des citoyens, des étrangers grecs qui résidaient à Athènes. Et par contre, ils n'avaient pas le droit de gouverner la cité et ils n'avaient pas de droit politique. Mais peut-être des fois, il y a eu des exemples où les métèques sont devenus des citoyens. S'ils rendaient service à la cité, ils pouvaient être récompensés et obtenir les mêmes droits qu'un Athénien.
Donc du coup, il reste combien de personnes pour être citoyen actif ?
Alors pour être citoyen actif, il en reste 40 000, puisque les familles, donc les femmes et les enfants évidemment, ne sont pas considérés à cette époque comme des citoyens actifs. Donc il reste 30 à 40 000 citoyens.
Donc à peu près 10%.
Ça fait à peu près 10% de la population.
Oui, donc une démocratie pas tout à fait démocratique.
Non, c'est pas vraiment. C'est une démocratie qui porte mal son nom.
Pas au sens, même si le mot démos kratos, c'est le pouvoir du peuple.
Pouvoir du peuple. Ouais.
Le peuple, oui. Ça dépend quelle définition on lui donne en fait.
Et donc les femmes étaient exclues donc pour participer à.
Les femmes étaient exclues de la vie politique. Ouais. D'accord. Elles avaient surtout un rôle religieux pour les panathénées. Parce que par exemple, elles défilaient dans les processions. Elle s'occupait de la religion, mais ce qui est d'ailleurs très important à Athènes, hein, parce que dans les principes de la citoyenneté, il y a la religion qui est intégrée à la citoyenneté, il y a le droit de défendre la cité aussi pour les hommes. Mais les femmes, j'allais dire, étaient quand même importantes, même si elles n'avaient pas de droit politique.
Et puis elles transmettent la citoyenneté.
Elles transmettent la citoyenneté et elles s'occupent de l'éducation des enfants.
Et en fait, ce droit démocratique de la cité athénienne, est-ce qu'il a été transposé dans le monde moderne, dans nos démocraties à nous ? Est-ce qu'on peut définir, si vous voulez, aujourd'hui, la démocratie moderne en se référant à la Grèce, par exemple ?
Alors, je pense qu'en partie, notre démocratie actuelle, qui s'est répandue dans notre monde occidental au XIXe siècle, a pour origine la Grèce antique. Mais nous n'avons pas la même conception de la démocratie, puisque chez nous, donc, la démocratie est complète. Les femmes, les hommes ont des droits politiques, ont le droit de vote. Et c'est quand même. On descend d'Athènes, mais on n'est pas directement en libre pensée avec eux, quoi, je veux dire. Vous comprenez ce que je veux dire ?
Oui, il y a eu un changement en fait, de conception.
Il y a un changement de conception de la démocratie.
Ouais. De la démocratie et de ce qu'est le citoyen, en fait. Oui. Et on peut dire que les premières expériences démocratiques, alors modernes, enfin contemporaines, datent de quand ?
Alors, les premières démocraties contemporaines. Donc la première véritable démocratie en Europe, c'est la Finlande en 1906, avec le droit de vote complet, c'est-à-dire le suffrage universel pour les hommes et pour les femmes. Et j'allais dire, c'est une démocratie donc très importante. Et c'est vrai que les pays d'Europe scandinave sont plutôt la proue de la démocratie. Et dans la plupart de ces pays, c'est là que se sont développés les droits politiques, la démocratie, la social-démocratie. Et j'allais dire, c'était aussi, ça peut aussi s'expliquer parce qu'ils ont une population pas très nombreuse. Donc c'est plus facile, je pense, pour être une véritable démocratie quand on est moins nombreux. Que certains autres pays, comme la France. Quoi.
Finalement, c'est assez tard, comme début du XXe siècle.
Oui, c'est très tard, c'est pas avant le début du XXe siècle. Alors, on s'est posé aussi la question, parce que c'est vrai que, pour moi, ce qui est important également dans notre quête de la démocratie, c'est la Révolution française, puisqu'elle chasse donc la monarchie absolue, elle met l'égalité de tous les citoyens, elle va créer également le suffrage universel masculin. Bien sûr, les femmes n'ont toujours pas le droit de vote, mais la Révolution française va jouer un rôle très important, j'allais dire, dans l'établissement de la démocratie en France.
Oui, et le suffrage universel pour un moment, mais qui a surtout été censitaire, où seuls les plus fortunés pouvaient.
Seuls les plus fortunés voter. Qui payaient l'impôt, pouvaient voter. Donc c'est pour ça que, si vous voulez, à la Restauration, à l'époque de Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe Ier, seuls les citoyens les plus aisés, souvent de la classe bourgeoise et les commerçants, qui payaient des impôts avaient le droit de vote. Les autres citoyens ne pouvaient pas voter.
– Mais est-ce que le mot démocratie parle, j'allais dire, au commun des mortels aujourd'hui ?–
Oui.
– Est-ce qu'il n'y a que le droit de vote, ou est-ce qu'il y a une référence à un certain nombre de vertus, comme Platon les expliquait, les cinq fameuses vertus cardinales qui sont la sagesse, le courage, la tempérance, la justice, etc. Tout ça, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on l'intègre réellement dans nos... –
Est-ce qu'il y a une définition, finalement ?–
Voilà. Oui, tout à fait.
– Est-ce qu'il y a une définition de la démocratie ?–
Est-ce qu'il y a une définition de la démocratie ?– Oui. Alors, si on regarde la Constitution donc, des droits de l'homme, qui date de 1948, on dit que la démocratie, il y a la tenue d'élections libres et régulières au suffrage universel direct. La liberté est fondamentale à condition que l'ordre public soit respecté. Et enfin, donc, les trois pouvoirs doivent être séparés. Donc, de ce côté-là, j'allais dire une définition moderne de la démocratie. Et je pense qu'il est très important, ce qu'il ne faut pas oublier également pour la France et pour l'Europe, c'est le siècle des Lumières, puisque c'est ce qui a permis, donc, j'allais dire, aux philosophes de réfléchir sur la société, de s'intéresser à la politique. Montesquieu, par exemple, qui critique la monarchie absolue et qui veut la monarchie constitutionnelle. Rousseau, qui est pratiquement très proche de la République. Donc, c'est toutes ces idées des Lumières, on les a reprises d'ailleurs dans les idées de l'Union européenne. Et je crois que c'est là d'où vient le terreau et le berceau de notre démocratie.
Donc, en gros, un régime qui ne respecterait pas un des quatre critères de la Déclaration universelle des droits de l'homme ne serait pas une démocratie. Alors, ce qu'on appelle une démocratie illibérale. Ou une démocrature, c'est un terme qui est récent, comme par exemple la Turquie ou la Russie. Même si la Russie, on peut dire qu'à ce moment, elle se dirige beaucoup plus vers la dictature que la démocratie illibérale. Et donc, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il y a davantage de démocratie dans le monde occidental.
Voilà, alors, il faut faire attention avec cette expression « monde occidental », parce qu'elle est très large, trop large. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de démocratie sur le continent européen, et également ne pas oublier les États-Unis, l'Amérique latine, où il y a eu d'ailleurs des révolutions au XIXe siècle, avec les Libertadores. Donc, et puis ne pas oublier qu'il y a beaucoup de démocraties en Asie, et que l'Inde, c'est quand même la plus grande démocratie au monde, avec 1 milliard d'habitants qui possèdent, et dont les gens qui ont la majorité possèdent le droit de vote. Quoi. Voilà, ne pas oublier non plus la Corée du Sud, qui est un pays riche et développé, Taïwan, Israël aussi, où il y a tous les partis qui sont représentés. Donc, faut faire attention avec ce concept d'occidentalisme, parce que je trouve qu'il est un peu réducteur.
Même si l'Inde, actuellement, avec le président Modi, Il y a une politique un peu de restriction des critères de démocratie. On a une démocratie qui risque d'être illibérale.
À cause de la religion.
Ouais, enfin, à cause de la vision identitaire, et nationaliste liée à la religion.
Voilà, et puis donc c'est réalisé également qu'en Europe de l'Est, les PECO, pays d'Europe centrale et orientale, sont pas vraiment des démocraties comme on l'entend au sens français. À notre sens à nous, parce que vous avez quelqu'un, par exemple, comme Viktor Orban en Hongrie, qui est au pouvoir depuis 10 ans, qui est Premier ministre, et qui, lui, est un souverainiste qui défend les valeurs chrétiennes et qui met de côté tous ceux qui ne parlent pas le hongrois et ne sont pas catholiques.
Ceci dit, on peut être démocrate et nationaliste.
On peut être démocrate, bien sûr, et nationaliste, sans problème, tout à fait,
Oui, ça ne remet pas en cause.
Non, ça ne remet pas en cause le principe. Il suffit simplement de respecter les droits des gens et les libertés. Ouais.
Il y a aussi une confusion qui est faite. Moi, il me semble que c'est très français. Une confusion qui est faite entre République et démocratie. Pour nous, la République, c'est la démocratie. Mais en fait, c'est faux.
Oui, et puis également, ne pas oublier, parce que nous, on n'est pas concernés, mais il y a, en Europe, entre autres, il y a beaucoup de monarchies constitutionnelles. Dirigé par un roi ou par une reine, mais évidemment, ce sont des, il y a le peuple possède le droit de vote et j'allais dire, ce sont tout à fait des démocraties.
Oui, puis à l'inverse, la Corée du Nord, qui est la dictature parfaite, est une république.
Tout à fait.
Mais peut-on opposer monarchie et république si on prend au sens propre du terme, c'est-à-dire que la république, c'est la chose publique dont on s'occupe. Un monarque peut parfaitement s'occuper de la chose publique.
Le problème de la Corée du Nord, c'est que la dynastie au pouvoir pense représenter l'opinion publique. À elle toute seule.
Et depuis trois générations.
D'où l'acceptation du mot de république, ou dans les pays d'Europe de l'Est et l'URSS, où on avait des républiques populaires, ce qui paraît d'ailleurs un peu redondant, des républiques populaires, mais qui n'étaient pas des démocraties. Donc voilà, même si c'était populaire.
Souvent d'ailleurs, les pays qui s'intitulent République populaire de un tel et de un tel, souvent ce sont des dictatures d'ailleurs.
Oui, tout à fait, tout à fait.
L'idée m'est venue ce matin en me rasant, je me suis dit, tiens, quelque chose de plus grand que nous s'impose à moi. L'appel d'une noble mission à la mesure de ma vision, alternative de premier plan, moi président. Votez pour moi, le programme j'en ai pas vraiment. Votez pour moi, mais j'aviserai en cheminant. Heureux qui suivra mon refrain, je ne reculerai devant rien. Pour moi, votez pour moi. De ville en ville, conjure en l'ombre, j'irai tranquille au plus grand nombre, tel le pèlerin délivré, mon message serein. Le monde dira dans mon sillage, ce gars sait soigner son ouvrage, pour fustiger des trucs au pif, je suis créatif. Votez pour moi, j'accolerai le feu qui brûle. Votez pour moi, à ces pauvres gens qu'on accule. J'incriminerai l'eau qui mouille, crierai qu'on nous prend pour des nouilles. Pour moi, votez pour moi. Si ça vous dit, si ça vous dit, si ça vous dit. Et si la veille du scrutin, on me prend la main dans le sac, je n'irai tout regard mutin du tac au tac. Post-vérité, c'est mon segment, prémisse d'un printemps citoyen. Si je te dis qu'il est encore temps, c'est qu'il y a moyen. Votez pour moi, j'imposerai à qui veut l'entendre. 49-3, qu'en fait il n'y a rien à comprendre. Je restaurerai souveraine les seules valeurs qui tiennent les miennes. Pour moi, votez pour moi. Pour moi, votez pour moi. Pour moi, votez pour moi. Si ça vous dit, si ça vous dit, si ça vous dit, si ça vous dit.
101.9. Calade.
Non, mais pour en revenir un peu à justement au système démocratique, Platon, qui dans les livres de la République, dit que c'est la monarchie qui serait peut-être le meilleur homme qui pourrait gouverner, justement parce que c'est l'homme qui surpasse les autres. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, dans notre République française, là, est-ce qu'on n'a pas eu des gens qui ont été appelés les monarques ? Déjà, la première, la Ve République, De Gaulle était traité de monarque. Ouais. Après, Pompidou, un peu moins. Mais Mitterrand, sûrement.
Sûrement.
Mm-hmm. Donc après, je ne sais pas, Giscard et Sarkozy, je ne sais pas. Mais Macron, manifestement, est bien traité de monarque.
De monarque, tout à fait.
Est-ce que c'est... ça, c'est le seul qui commande, mais est-ce que ce n'est pas celui qui surpasse les autres, justement, puisqu'on en a fait le choix ? En tout cas, si on revient à la pensée de Platon.
Le problème, je pense, c'est que Jupiter ne peut pas tout faire et ne peut pas gouverner tout seul. Il a besoin des autres et il a besoin de moins de verticalité pour que la démocratie, j'allais dire... soit présente pour le peuple et pour toute la France. Mmh. Quoi.
Puis la Constitution française est un peu particulière, puisqu'on a un système qui est parlementaire et présidentiel. Mmh. Alors, ni présidentiel comme aux États-Unis, ni parlementaire comme dans les pays européens. Il a un peu les deux. Donc, le rôle du président est exacerbé dans la Constitution.
Est-ce que cette présidentialisation ne donne pas l'aspect d'être une monarchie? C'est bien ce reproche que l'on fait. Quoi.
Ça donne l'aspect d'une monarchie, mais il ne faut pas oublier, c'est quand cette constitution de 1958 a été mise en place. Ça s'est fait pendant les événements d'Algérie, à cause du 13 mai 58 et du coup d'État, des généraux, des généraux, oui, Alger. En fait, c'est De Gaulle est revenu au pouvoir pour éviter la guerre civile en France. Donc c'est quand même ça s'est créé dans les circonstances exceptionnelles, quoi. Donc c'est pour ça, je pense qu'il faut prendre du recul par rapport à cette situation.
Et puis en bonne démocratie, il y a un équilibre des pouvoirs. Tout le monde, aucun des trois pouvoirs, judiciaire, exécutif, législatif, ne peut faire ce qu'il veut tout seul. Il doit rendre compte aux autres. Donc sans ça, c'est quand même une démocratie, même s'il y a un aspect monarchique.
Et dans les débats actuels, on a l'impression qu'on oublie quand même les trois vertus de la République, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. On en parle de beaucoup de droits, de besoins, de ceci, de cela, et un peu moins de ces trois principes qui devraient nous guider constamment.
Ça fait d'ailleurs partie des dérives qu'avait dénoncé Alexis de Tocqueville en 1848. Donc c'est pas récent. Hein. Il parlait justement de la démocratie en Amérique et il disait qu'il y avait des dérives possibles. Est-ce que vous savez, vous pouvez nous dire lesquelles ?
Par exemple, la tyrannie qui pouvait arriver au pouvoir. C'est exactement également ce qui se passait parfois dans la Grèce classique, hein, puisque vous aviez des gens qu'on appelait entre autres des démagogues, qui flattaient l'opinion publique, qui faisaient des promesses, qui étaient élus, et puis comme beaucoup d'hommes politiques, une fois qu'ils sont élus et que la période des élections est passée, ben, ils oublient leurs promesses, ils ne tiennent pas leurs promesses, et on revient à des dérives autoritaires, quoi.
Oui. Et ils peuvent garder leur pouvoir que comme ça, parce qu'il y a un pouvoir autoritaire. Sinon, ils repassent devant le... Tocqueville, il disait que, de toute façon, après, ils repassaient devant le peuple pour les élections. Donc, il faut qu'ils évitent de revenir devant le peuple. Il y a d'autres dérives encore.
Ce combat contre une personne ou un personnage, ben c'est le cas de Philippe de Macédoine qui a été fortement, j'allais dire, combattu, ce qu'on appelle les Philippiques, justement, parce que voilà, ben c'est celui qui l'attaquait a perdu. Mais on a la même chose dans la République romaine, où Cicéron attaque quand même, notamment Catilina. Puisque c'est pour éviter ce type de dérive, ou plutôt un constat des dérives qu'il dénonce. Quoi.
Il y avait d'autres dérives encore
Il y avait en fait l'égalitarisme qui conduit à la mise en place d'un État centralitaire, et du coup, ce qui peut également être une des dérives de la République. Quoi. C'est un danger. Donc il faut faire attention.
Et le populisme ?
Alors le populisme qui se développe depuis ces 30 dernières années, pour moi c'est un mouvement donc qui prétend donc défendre la véritable politique dont la souveraineté donc serait confisquée par une élite dans le système de la démocratie représentative, souvent utilisé pour disqualifier un adversaire politique. Le terme est parfois aussi revendiqué par les partis ainsi désignés. Et je crois qu'il ne faut pas oublier, on n'en parle pas assez souvent, c'est que ce populisme est né dans un contexte de crise économique et sociale. et qui exacerbe les passions et qui conduit, qui développe le chômage, les problèmes, et qui conduit les gens à voter pour les partis extrémistes, que ce soit d'ailleurs l'extrême droite et également l'extrême gauche.
Il peut y avoir quand même des attitudes populistes dans tous les partis.
Il y a des attitudes populistes dans tous les partis, puisque dans les souverainistes, il y en a qui sont aussi des démocrates. Et qui se présentent aux élections et qui ne veulent pas un pouvoir autoritaire.
Ou je pensais à des gens qui sont prêts à dire n'importe quoi pour contenter ce qu'on appelle le peuple, qui d'ailleurs n'est pas très défini, mais pour avoir ensuite des voix ou des choses comme ça. Enfin,
tout à fait,
oui. Et du coup, le populisme, c'est un petit peu ça. Prétendre parler au nom du peuple, et alors que le peuple, il parle par les urnes, normalement.
Voilà. Et qui est utilisé le peuple pour arriver au pouvoir.
Après, ce qui pose la question, c'est l'abstention.
Voilà.
Alors, ce sera la conférence qu'on aura.
La prochaine conférence,
qu'on aura à l'Académie.
Tout à fait,
Non, justement, la question qui est posée est un peu différente de ce que l'on croit. En fait, il pose de quoi les abstentionnistes s'abstiennent-ils, alors qu'on penserait pourquoi les abstentionnistes s'abstiennent. Est-ce que vous, sur le pourquoi, vous auriez une réponse particulière ?
Sur l'abstentionnisme ?
Oui. Le pourquoi, pourquoi on se détourne. Il y a plusieurs causes.
Ah oui, bien sûr.
Il y a beaucoup de causes. Il y a, je pense, le manque de popularité des hommes politiques. Il y a également le fait que les gens ne se retrouvent pas représentés. Ils essayent petit à petit tous les partis et tous les suffrages possibles. Et certainement qu'un jour... peut-être que le Rassemblement national arrivera au pouvoir, parce qu'ils vont dire on n'a jamais essayé ce parti politique, on ne sait pas ce qu'il vaut. Alors il fait des promesses, c'est un parti qui utilise beaucoup de propagande.
Ça vaut aussi pour la France insoumise.
Ça vaut aussi pour la... J'ai parlé tout à l'heure, monsieur Chantin, si vous avez écouté.
Les deux extrêmes.
des deux extrêmes, voilà,
c'est
tout
vrai.
À fait. Ouais.
C'est vrai.
En fait, ils utilisent le mécontentement des gens pour arriver au pouvoir.
Oui. Mais, et pourtant, si on prend les dernières élections, même les précédentes, on s'aperçoit quand même qu'il y a un panel de choix important, puisqu'on avait quand même 12 ou 13 candidats, pas cette fois-ci, mais la fois d'avant, ça balait quand même tout de l'extrême au centre, au plus modéré, etc. Et est-ce que ce n'est pas plutôt l'individualisme ? C'est-à-dire qu'en fait, on ne répond pas à ce que souhaite l'individu, plutôt que de s'occuper de l'intérêt général, c'est ça.
Je pense qu'on est tout à fait dans un nouveau type de société où le groupe, est disloqué et aujourd'hui ne compte que sa propre personne et l'individualisme. D'ailleurs, également, je pense, dans les causes de la montée des abstentionnistes, il y a également toutes les dérives du complotisme.
Oui, bien sûr. Et du coup, alors, je ne parle pas pour la France en particulier, mais pour des démocraties fragiles, est-ce qu'on n'a pas tendance, donc, du coup, à arriver sur des démocratures, enfin, ces fameuses démocraties illibérales, est-ce qu'il n'y a pas ce passage-là ? Est-ce qu'il s'est déjà fait ? Comment ça s'est fait ?
Oui, ce passage s'est surtout fait, on en parlait tout à l'heure, dans les pays d'Europe centrale, comme la Hongrie, donc, qui utilise... leur langue, leur culture, pour permettre à Viktor Orban d'arriver au pouvoir. Et qui, j'allais dire, lutte contre toute... En fait, dans ces démocraties illibérales, il faut trouver un ennemi commun. Et l'ennemi, c'est l'Union européenne, quoi. Alors c'est vrai que l'Union européenne, c'est un groupe de plus de 500 millions de personnes. C'est la première, économie... capitaliste dans le monde. Moi, je trouve qu'on est toujours très dur contre l'Union européenne, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Union européenne est née après le congrès de La Haye aux Pays-Bas en 1948. Donc il fallait reconstruire sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale. Ne pas oublier également qu'on doit la paix à l'Union européenne et que les Français et les Allemands ont été capables d'oublier leurs différents trois guerres en 70 ans pour se mettre à la même table, signer donc les accords de coopération, la communauté européenne du charbon de l'acier. Et ça, je pense qu'au bout de 50 ans d'existence, les gens l'ont oublié, puisqu'il n'y a pas eu de guerre en Europe depuis très longtemps, à part, la guerre en Ukraine cette année, et puis je pense aussi aux guerres de l'ex-Yougoslavie dans les années 90. Mais pour nous, je pense que pour le peuple, la guerre, c'est quelque chose de loin.
Oui.
Et du coup, en France, on n'a d'ailleurs plus d'armée de conscrits. Hein. Mmh. On a une armée de métier. Ça veut dire on a moins de militaires parce qu'il y a moins d'interventions et on n'a pas besoin d'une armée puissante. Bon, aujourd'hui, avec la situation en Ukraine, on se rend compte qu'on n'est pas équipé, qu'on n'est pas armé. Et les chefs d'état-major français, ils viennent de dénoncer d'ailleurs le sous-équipement de l'armée française à l'Assemblée nationale il y a 15 jours ou 3 semaines.
Mmh. Est-ce que, alors pour l'Europe, notamment pour Viktor Orban, est-ce qu'il n'y a pas aussi, ce qu'on disait pour les personnes, une sorte d'individualisme, c'est-à-dire mon pays d'abord et les autres après, quoi.
Il y a mon pays d'abord, les autres après. Mmh. Et puis ce qu'il faut également dire, c'est que l'Union européenne, c'est super compliqué, le fonctionnement est super compliqué. Et il y a tellement de choses que le commun des mortels n'y comprend rien aujourd'hui.
Bah après, il y a Viktor Orban, mais aussi la Pologne, on a quand même des remises en cause de certaines libertés. C'est en ça aussi qu'elles sont illibérales.
Illibérales.
Et on ne parle pas de la Turquie ou d'autres pays.
Non, puis il est très populaire dans les pays d'Europe centrale et orientale. Et il y a beaucoup de partis politiques qui sont inspirés par lui et qui veulent créer le même style de mouvement et de démocratie libérale. Quoi.
Est-ce que ce n'est pas aussi le fait que ces peuples ont été quand même sous subordination de la Russie, notamment.
Oui, soviétique.
Est-ce qu'on peut dire des dictatures ou pas, j'en sais rien.
Oui, ouais.
Mais est-ce que cette habitude-là, aujourd'hui, pour reprendre sa liberté, son droit d'exercer ses pouvoirs, etc., c'est pas difficile dans ces pays-là? Est-ce qu'on n'est pas allé trop vite?
Peut-être qu'on allait trop vite pour rétablir la démocratie, et que ça s'est fait un peu à marche forcée. Ça, c'est sûr. Le problème, c'est que ces pays, si vous voulez, ils sont récents. Hein, puisque par exemple la Hongrie, elle date du traité du Trianon, de 1918-1919, et que ces pays n'existaient pas avant, hein, puisqu'ils appartenaient à l'Empire d'Autriche-Hongrie, et qu'ils n'ont pas d'histoire, ou une histoire qui était celle de l'Autriche et de la Hongrie, et eux sont passés, j'allais dire, à travers les foudres de l'histoire et les oublis de l'histoire. Donc du coup, je pense que, à mon avis, ça cristallise leur nationalisme identitaire pour montrer que, justement, ils existent, ils sont là, et ils ont résisté au communisme et à Staline, et il faut donc qu'ils continuent leur marche.
Est-ce que la Suisse est l'exemple de la démocratie moderne ?
Alors, la Suisse est un très bon exemple de démocratie directe. C'est l'un des rares exemples de démocratie directe dans le monde, d'ailleurs, hein. Mais parce qu'il y a ce qu'on appelle des votations, c'est-à-dire que les citoyens se prononcent sur chaque loi. Mais je pense que c'est d'ailleurs très bien. Je pense qu'il y a ce qui est possible dans un petit pays très peu peuplé, qui a moins de 10 millions d'habitants, c'est réalisable. Alors que dans un pays comme la France, qui compte pas loin de 70 millions d'habitants, c'est plus compliqué, quoi.
Merci pour cet échange très riche en tout cas, qu'on prolongera donc le 10 septembre à l'auditorium à 16h avec la conférence proposée par l'Académie. De quoi les abstentionnistes s'abstiennent-ils ? On en saura un peu plus avec ce qu'on a dit aujourd'hui sur la démocratie. Et cette conférence sera faite par Paul Bacot. Vous pouvez retrouver les actualités de l'Académie sur notre page Facebook.
Merci à vous et merci de m'avoir invité.
Merci, non, merci à vous.
La chronique beaujolaise de l'Académie. Une émission proposée par les académiciens Pierre Prunet et Jean-Pierre Chantin. Sur Calade, le 100.9 et www.radio-calade.fr.